Marins de toutes les mers, aviateurs de tous les ciels, artilleurs, fantassins, cavaliers de tous les pays, tués par la guerre, je vous appelle.
1915, deuxième épisode de notre série, le Comité international de la Croix-Rouge.
Nous sommes réunis ici pour quelque chose d'inutile. Oui, ni vous, ni moi ne profiterons de cet acte. Aujourd'hui, nous devons faire naître un ordre absolument nouveau dans l'histoire du monde. Un ordre qui introduit la charité dans le droit des peuples.
Issu de l'expérience d'Henri Dunant, à la bataille de Solferino et d'une série de conférences internationales dont la première a eu lieu en 1863, le mouvement de la Croix-Rouge s'inscrit dans une tradition philosophique occidentale qui cherche à resserrer les guerres dans un cadre éthique et juridique. La guerre en 1914 pouvait se présenter comme un conflit juste. Les puissances qu'il avait déclenchées avaient toute l'impression d'avoir été agressées. En 1915, cette conviction n'a pas faibli, notamment en France, où les combattants sont d'autant plus convaincus de leur bon droit qu'ils défendent dans leur tranchée leur territoire. De cette situation intolérable, on ne peut hélas sortir que par davantage de violence encore. La Grande Guerre sera mondiale, totale, brutale. La tentation dès lors est de dire qu'il y a dorénavant, d'un côté, l'ennemi absolu et de l'autre, l'humanité, et que le traitement du premier ne peut plus relever des règles de la seconde. C'est le mérite du Comité international de la Croix-Rouge d'avoir déployé dans ces circonstances une activité inouïe. En 1914, c'était une modeste association philanthropique, recluse dans de petits bureaux. 3 ans plus tard, le député Pasquale, qu'il avait contribué comme tant d'autres prisonniers à secourir et à libérer, peut lancer à la tribune du Palais Bourbon « Le CICR, c'est au-dessus de la voix du canon, celle de l'humanité ».
La marche de l'histoire. France Inter, Jean Lebrun.
Formule que ne rejettera pas l'invité de la marche de l'histoire, Daniel Palmieri, bonjour.
Bonjour Jean Lebrun.
Historien au CICR.
Effectivement, historien au CICR, parce que je revendique une certaine autonomie de pensée, une certaine indépendance critique.
Ah non, je pensais que vous étiez tissé de neutralité modeste et que c'est pour cela que vous revendiquiez aussi ce titre. Vous êtes l'un des co-commissaires d'une exposition qui a lieu au mémorial de Caen.
Tout à fait, et qui s'intitule « L'humanité en guerre, point d'interrogation », parce qu'on va poser une question, savoir si en 150 ans d'existence du CICR, on a réussi à mettre, comme le souhaitait Henri Dunant, un brin d'humanité dans la violence armée.
On parle aujourd'hui de droit international humanitaire. En 1914, on parlait plutôt de droit de la guerre, qui avait déjà été en partie formulé dans les années entre Solferino et 1914.
Voilà, alors à plusieurs reprises, déjà en 1864 avec la première convention de Genève qui vient au secours des militaires blessés dans les armées de terre. Et puis ensuite, vous avez pendant les conférences de la paix de La Haye de 1899 et de 1907, également des annexes à ces conférences qui traitent également du droit de la guerre ou de la façon de faire la guerre pendant une terrible catastrophe.
Droit de la haie, droit de Genève, le CICR n'est pas le seul à penser le droit de la guerre. Le CICR, il est très modeste d'ailleurs en 1914.
En 1914, le CICR, c'est exactement 10 personnes, 9 membres d'un comité qu'on pourrait appeler une sorte de conseil d'administration et un secrétaire. Donc, c'est des bourgeois protestants issus de la grande élite genevoise.
Citoyens genevois obligatoirement.
Citoyens genevois obligatoirement, et ce n'est qu'en 1923 que dans un grand esprit d'ouverture, le CICR va s'ouvrir aux Suisses.
Et vous-même, vous êtes suisse d'italien?
Je suis moitié suisse romand et moitié suisse italien.
Gustave Moynier, c'est le premier président du CICR. C'est son neveu qui va prendre sa place et qui sera à la manœuvre. Il s'appelle Gustave Adorf. C'est un personnage considérable pendant la guerre de 14. Les Croix-Rouges nationales, elles, fédèrent un secrétariat international qui siège aussi à Genève. C'est beaucoup plus important numériquement. 1914.
Ah oui, bien évidemment. La grande initiative du CICR dès sa constitution a été de créer dans chaque pays ou de chercher à créer dans chaque pays une société de secours aux militaires blessés en temps de paix qui serait capable en temps de guerre de venir épauler les services de santé des armées.
Donc, des sociétés nationales composées de membres de la meilleure société, le marquis de Vogüé, c'est le président pour la Croix-Rouge française. Et en Autriche-Hongrie, le président s'appelle François Salvator de Habsbourg-Lorraine. Voici comment il remercie sa royale et impériale majesté apostolique François-Joseph de l'avoir chargé de ce poste qu'il a accepté avec soumission et dévotion.
Haben auf den von mir alleruntertänigst unterbreiteten Tätigkeitsbericht der Institutionen der freiwilligen Sanitätspflege für das Jahr 1915 mich allergnädigst zu beauftragen geruht, den Leitungen der Gesellschaften vom Roten Kreuze in Österreich, Ungarn und Bosnien-Herzegowina.
À l'Autriche, la Hongrie, la Bosnie-Herzégovine, je vais apprendre le noble labour du prochain et les devoirs qui méritent la plus haute reconnaissance. Dites-moi, la Bosnie-Herzégovine, ça devrait être un croissant rouge, non ?
Visiblement, comme elle était sous l'Empire austro-hongrois, c'était la Croix-Rouge hongroise.
Mais le croissant rouge, ça existe dès cette époque en Turquie ?
Le croissant rouge existe puisque à partir des années 1870, l'Empire ottoman a décidé que la Croix-Rouge ne satisfaisait pas ses soldats. Ils ne pouvaient pas respecter un tel emblème, donc on a utilisé l'emblème du croissant rouge.
Chaque société de la Croix-Rouge suit, pendant la guerre, quand elle concerne un pays belligérant, la ligne nationale, mais en même temps, les membres des Croix-Rouges nationales qui interviennent sur les champs de bataille doivent faire respecter les conventions internationales sur les blessés, celles que vous citiez tout à l'heure.
Tout à fait, c'est un peu l'ambiguïté. Chaque Croix-Rouge nationale doit être neutre et impartiale. Mais effectivement, dans l'ère de propagande et de nationalisme de l'époque, les Croix-Rouges nationales sont bien souvent le porte-parole du gouvernement, notamment auprès du CICR, qui est une sorte de relais, d'intermédiaire entre les différentes Croix-Rouges.
Cocteau dans Thomas l'Imposteur, ici c'est une adaptation de son livre par Georges Franju au cinéma, avait décrit un convoi mondain, auquel il avait lui-même d'ailleurs participé, dirigé, disait-il, par une princesse, mais qui arborait le signe de la Croix-Rouge dans un dépôt français de prisonniers allemands.
Capitaine, pouvons-nous être utiles à vos blessés ?
Non, madame. Ils n'ont besoin de rien. D'ailleurs, qu'on laisse donc les blessés tranquilles. Les blessés, ce sera l'encombrement de cette guerre.
Nous sommes au service de Croix-Rouge. Nous pouvons évacuer vos blessés sur Paris. Notre hôpital les prendra en charge.
Les civils ont de la chance. Ils ont encore le temps de faire leur charité. Je vous avise que tous les blessés qui sont ici sont des blessés ennemis. Une ambulance allemande tombée dans une embuscade. Si vous vous en accommodez, je ne demande pas mieux que de voir partir cette vermine.
Nous nous en accommoderons.
Priez les blessés et transportez-les dans la cour. In den Hof, Gedinor Beweglissen. Verstanden ?
Toute princesse qu'était cette dame, elle n'était qu'auxiliaire des armées.
Tout à fait, certainement. Et c'est intéressant cet petit extrait parce qu'on parle d'une ambulance tombée dans une embuscade, ce qui est une violation du droit de Genève et du droit de La Haye également. Donc l'armée française s'est rendue coupable d'une violation du droit.
Dites-moi, les Croix-Rouges des pays neutres, c'était peut-être plus facile pour le CICR de travailler avec elles ?
Le CICR va beaucoup collaborer avec les sociétés de Croix-Rouge des pays neutres, notamment la Croix-Rouge danoise, qui va être un grand auxiliaire pour tous les événements sur le front de l'Est. Et effectivement, c'est un peu plus facile, même si certaines sociétés sont quand même un peu contaminées par la propagande alliée ou de la triple alliance. Donc, la neutralité, c'est un facteur très relatif pendant la Première Guerre mondiale, y compris pour le CICR, puisque vous avez mentionné Gustave Ador, il est très francophile. Et certains membres du CICR ont même acheté des bons d'épargne pour soutenir l'effort de guerre français.
Parce que le CICR, il s'appuie plutôt sur la Confédération helvétique.
Oui, le CICR, à l'époque, s'appuie beaucoup sur la Confédération helvétique, non seulement pour obtenir des passeports pour ses délégués, mais également pour avoir des informations de première main sur des situations militaires. Et à son tour, le CICR communique beaucoup, au vu de ses expériences sur le terrain, à la Confédération helvétique. Donc, c'est un échange de bons procédés.
La question centrale dont va se préoccuper le CICR et qui va l'entraîner sur des chemins qu'il n'avait pas imaginés, c'est celle des prisonniers de guerre, et ce, dès le 21 août 1914.
Dès le 21 août 1914, le CICR crée une agence de renseignement à Genève, au musée RAD, qui s'appelle l'Agence internationale des prisonniers de guerre, et qui va permettre au CICR de mettre véritablement un pied dans une activité qui continue encore aujourd'hui, qui est l'activité de visite, de détention et de renseignement aux familles sur les prisonniers de guerre.
Selon le système de conventionnement ou de règlement de La Haye, encore plus que de Genève, il y avait un système de protection qui était imaginé pour les prisonniers. Chaque pays belligérant se doit de constituer un bureau de renseignement sur les pays de guerre. Et après, il faut croiser les fichiers, comme on dirait aujourd'hui.
Tout à fait. Alors, non seulement les pays, depuis la Convention de La Haye, ont l'obligation de constituer un bureau de renseignement, mais les Croix-Rouges également. Donc, le CICR va utiliser ces deux sources étatiques et Croix-Rouge pour obtenir des renseignements et en même temps, de cette façon-là, pour répondre aux milliers de demandes de familles qu'il reçoit chaque jour.
Et pour répondre à cette demande, il faut que s'étoffer. Vous parlez du musée RAT, nouvelle installation pour l'Agence internationale des prisonniers de guerre, où vont travailler beaucoup de bénévoles. L'un des plus connus, c'est Romain Rolland.
Oui, Romain Rolland, et également sa sœur, travaillent pendant un moment à l'Agence internationale des prisonniers de guerre. C'est deux célébrités, mais en même temps, l'Agence internationale des prisonniers de guerre se constitue d'énormément de bonne volonté, y compris de volonté qu'on pourrait voir antagoniste dans la guerre, puisque côte à côte travaillent des Français, des Allemands, des Russes, des Britanniques, et tous ont cette mission d'obtenir des informations sur des captifs afin de répondre aux demandes des familles.
Et se constitue comme ça un immense fichier avec les prisonniers valides, les prisonniers blessés et malades, les prisonniers morts. On retrouvera le même système d'ailleurs pendant la Deuxième Guerre mondiale. Voici l'un de vos prédécesseurs, Monsieur Jacquet, interrogé en 1956 pour la radio-télévision française par François Chalet.
Dites-moi, Martin.
Combien pensez-vous qu'il y en ait, Monsieur de Martin?
De Martin dans vos casiers?
Oui.
Je ne sais pas.
Il y en a 30 000.
30 000
Dont 2 000 Jean-Martin.
2 000 qui ont le même prénom.
Qui ont le même prénom, oui.
Je me demande vraiment comment vous faites pour vous y retrouver quand vous en cherchez un en particulier.
C'est très facile, monsieur. Voulez-vous faire un essai?
Ben, je veux bien.
Eh bien, dites-vous-même.
Ben, on va commencer par un Martin tant qu'on y est. Martin-Jean, un des 2 000. Voilà, je prends le premier. Martin-Jean, 21 mars 1904, Rogy, Ardèche, ça doit être la date de naissance. Première classe. On va voir ce que ça donne.
Martin. Eh bien, voilà. Voilà Martin Jean, Bogie, Ardèche, première classe, régiment d'artillerie, capturé à Lille. Voilà notre homme.
Vous l'avez retrouvé.
Mais oui.
Vous êtes un bon détective.
Mais non, c'est du travail court, hein.
Ça, c'est le dossier qui correspond alors à ce Martin Jean. Vous avez un pour chaque Martin.
Pour chaque Martin et pour chaque prisonnier ou civil disparu dont nous nous sommes occupés.
Bah, moi, ça ne me dit pas comment vous avez procédé.
Oui, enfin, comment vous avez procédé? Moi, je soupçonne une manipulation. De toute façon, il y a numérisation maintenant. Il n'y avait pas de manipulation, là.
Là, dans l'exemple, non, même si le Jean-Martin qui est cherché est un faux Jean-Martin.
Ah, vous voyez.
Mais il y a eu effectivement 2500 Jean-Martin et 30 000 Martins en tout.
Et maintenant, c'est numérisé. Et alors, pour faire comprendre les bienfaits de la numérisation et de l'accès en ligne, alors, le cas qui est sans arrêt mis en avant, c'est celui de Maurice Chevalier. Il y a eu beaucoup de Maurice Chevalier, d'ailleurs, prisonniers, j'imagine, pendant la Première Guerre mondiale.
Oui, tout à fait, il y a eu beaucoup de Maurice Chevalier, et quelquefois, les prisonniers avaient la même date de naissance et le même nom de père. Donc, il fallait trouver encore d'autres informations pour être sûr que le Maurice Chevalier qu'on cherchait était le bon.
Alors, il y en a une qui remuait ciel et terre pour retrouver son amant, dont elle avait été le Pygmalion, c'était évidemment Mistinguette. Elle dit avoir rencontré Gustave Adore, le président du CICR soi-même. Il y avait des gens qui venaient à Genève?
Alors, il y avait des gens qui venaient. Vous aviez non seulement les gens qui écrivaient, mais les gens qui se présentaient en personne devant les bureaux de l'Agence internationale des prisonniers de guerre. Il est tout à fait possible, vu le physique de Mistinguette, que Gustave Adore l'ait accueilli personnellement.
125 000 personnes, quand même, sont venues directement à Genève et qui n'ont pas toutes été reçues par le président du CICR. Elle se déplaçait beaucoup, Mistinguette, à l'époque, parce qu'elle était en tournée. Il y avait un sketch qui s'appelait « Toute petite », avec lequel elle avait beaucoup de succès et qui a fait l'objet d'enregistrements dans ses premiers disques d'après-guerre. Ici, c'est une version de 1938.
Je suis pas élevée dans un couvent, dans une pension pour demoiselles. J'ai fréquenté jusqu'à 7 ans la maternelle. Mais à Belleville, on grandit vite. une fois dehors, je me suis instruite, je comprends maintenant. Je comprends même que sur terre, tout n'est pas soleil et lumière pour les pauvres gens. Quand on est comme moi, sans blason, sans famille, et qu'on est attigé d'un physique comme le mien, on comprend que c'est faux, que c'est de l'or tout ce qui brille, puisque tout ce qui brille ne nous regarde point. Mais on comprend aussi que c'est la vie qu'il faut se taire. On s'en fout, on en rit, on en pleure, c'est pareil. Seulement on se fait pas voir, on se cache, on se terre. Quand on est moche comme moi, on se met pas au sol. Je me fais petite, toute petite. On ne me voit pas, on ne sait pas que je suis là. Et dans la pénombre, je marche toujours. Nul ne voit mon ombre, ne vient à mon secours. Je me fais petite, toute petite. Et dans la nuit, je vais sans bruit comme les souris. Et les souris s'affilent vite, vite, vite. Je me fais petite.
La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter.
Le CICR, peut-on humaniser la guerre? Daniel Palmieri, historien au CICR, est notre invité. Vous voyez, le physique de Miss Tinguette, c'est pas si extraordinaire que ça. À l'entendre, elle a quand même vu Gustave Adore, mais elle avait les moyens aussi de faire agir d'autres leviers. Elle avait été la maîtresse d'Alphonse XIII, et alors c'est par Alphonse XIII, peut-être, ouais, qu'elle a obtenu la libération de Maurice Chevalier en 1916. Parce qu'il n'y a pas que le CICR, il y a l'Espagne neutre, il y a le Vatican, que sais-je.
Tout à fait, le CICR n'est pas l'unique organisation qui assiste ou qui vient en aide aux prisonniers de guerre. Vous l'avez dit, il y a les États neutres, notamment l'Espagne, mais également la Hollande, le Danemark et le Vatican. Mais également, vous avez énormément d'associations qui se créent dans tous les pays. Uniquement en Suisse, vous avez 400 organisations qui sont créées pendant la guerre, qui viennent en aide à telle et telle catégorie de victimes de la guerre, que ce soit des civils, des blessés ou des militaires. Et à Genève, vous en avez 80 à côté du CICR. Le CICR est peut-être la plus emblématique, mais ce n'est pas la seule.
Les biographies de Miss Tinguette, la dernière chez Omnibus de Martin Penet, publie des correspondances de Maurice Chevalier avec Miss Tinguette qui passent par le CICR. Mais on n'a plus besoin au bout d'un moment du CICR pour les correspondances.
Ah, on a toujours besoin du CICR pour les correspondances.
Bah on passe par qui? Par les postes nationales, non?
Alors, on pourrait passer par les sociétés de la Croix-Rouge, on pourrait passer par les postes nationales, pour autant que les postes nationales fonctionnent. Et par exemple, si vous habitez une région occupée, vous ne recevez pas de courrier. Donc, une des grandes entreprises du CICR pendant la guerre a été de finalement continuer à favoriser l'échange de correspondances entre des prisonniers et leurs familles. Et quelquefois, vous avez les représailles qui empêchent à un moment donné les prisonniers d'écrire. Donc, il faut aussi lutter contre ce genre de violation.
Et l'envoi des colis, le CICR s'en préoccupe aussi beaucoup. Il a beaucoup de moyens, le CICR, à partir de 15-16.
Alors, pour les colis, le CICR les reçoit souvent soit de privés, soit de sociétés de la Croix-Rouge. Quant aux moyens du CICR, il en a énormément. Tout simplement parce que le CICR va faire appel aux dons du public. Il va recevoir énormément d'argent. Un exemple, le budget de 1915 représenterait aujourd'hui 5 millions de francs suisses, c'est-à-dire environ 4,8 millions d'euros. Donc c'est effectivement une organisation qui a pris de l'ampleur non seulement au niveau de son personnel, mais également au niveau financier.
Les entreprises helvétiques contribuent ?
Les entreprises ont beaucoup contribué, notamment toutes les grandes entreprises métallurgiques, que les banques, les assurances vont être les pourvoyeuses d'argent du CICR. Et d'ailleurs, le CICR va lancer à ce moment-là la récolte de fonds. Donc, il va envoyer des délégués spécialisés pour aller récolter des fonds auprès des entreprises.
Une entreprise invente, elle n'est pas suisse, elle est française, elle s'appelle Eudebert et elle est basée en partie à Lyon. Le pain concentré à l'époque qu'on expédie dans les colis. Donc, Lyon, Bâle, CICR, redistribution. Nous sommes dans un camp de prisonniers dans la grande illusion. Freinet, Carette et leurs camarades. Le film de Renoir. Il y a bien mieux que des biscottes Eudebert dans les colis.
Au nom du commandant Kraus, les officiers seront traités avec tous les égards dus à leur qualité. Cependant, le commandant Kraus vous rappelle que vous êtes ici sous l'autorité des lois allemandes. Vous devrez donc dès aujourd'hui prendre les habitudes de la discipline allemande et vous soumettre.
Monsieur, nous allons vous faire passer dans un bureau pour une petite formalité. D'abord.
Seigneur, dis-donc, qu'est-ce que c'est que les façons de procéder?
Je le regrette, capitaine, mais c'est notre devoir de vous fouiller. C'est la guerre. Nous sommes parfaitement d'accord, mais on peut la faire poliment. Sinon, je serai obligé d'en référer au général commandant de la région.
Vous avez ouvert ma boîte de jambon, n'avez pas le droit.
Certainement, c'est dans le règlement.
Eh bien, moi, je suis étonné et ravi chaque fois que je touche à l'envoi de mes parents. Quand je pense que nous sommes ici au centre de l'Allemagne, séparés des nôtres par une ligne de feu infranchissable, et que voici une boîte de petits pois qui m'arrive directement de Paris.
Ce qui m'étonne le plus, c'est la stupéfiante honnêteté de nos geôliers qui nous transmettent ces causes.
Ça, c'est vrai. Tiens, notre Feldhoff est belle, la Arthur. Bah, tous les jours, ils s'envoient des choux. Et ça irait sur l'estomac, il y a horreur de ça, il me l'a avoué. Hein? Oh! Oh, sûr, il aimerait mieux becter tes petits pois.
Vous vous faites des idées. S'ils faisaient ça, on ne recevrait plus de colis, ils le savent bien. Alors, ils sont obligés de nous nourrir. Ils ont déjà assez de mal à se nourrir eux-mêmes.
Mais les Allemands ne vont pas dire qu'ils ont du mal à se nourrir eux-mêmes.
Les Allemands le diront pas, mais les prisonniers de guerre le sentiront, non pas les officiers comme dans La Grande Illusion, mais le simple soldat, puisque le droit de la haie prévoit que les prisonniers reçoivent les mêmes rations que les militaires. Donc quand les rations dues notamment au blocus diminuent, les prisonniers en pâtissent. Et quelquefois, les belligérants informent le CICR comme quoi ils sont obligés de diminuer notamment la ration de pain, tout simplement parce que leurs soldats touchent beaucoup moins de pain qu'auparavant.
Le CICR envoie des inspecteurs, nombreux, régulièrement, dans les camps de prisonniers de guerre.
À partir de janvier 1915, le CICR va visiter des camps de prisonniers de guerre, effectivement. Donc on va envoyer des délégués, ce qu'on appelle des délégués chez nous, qui vont faire des visites, qui vont rédiger des rapports sur les conditions de logement, les conditions de nourriture, les conditions de soins, sur le besoin spirituel et intellectuel des prisonniers. Et ces rapports sont ensuite adressés à la puissance captrice et à la puissance d'où vient le prisonnier de guerre.
Et les citoyens suisses, il n'y a que des citoyens suisses qui font partie des inspections.
Alors pour le CICR, c'est uniquement des Suisses. Mais par exemple, vous avez également, vous le disiez tout à l'heure, les États neutres qui vont envoyer également des inspecteurs visiter les camps. Quelquefois, vous avez même de simples particuliers qui obtiennent l'accès dans un camp et qui peuvent en faire rapport, et notamment faire rapport auprès du CICR pour améliorer les conditions de détention dans ce camp.
Les inspecteurs se comportent avec une stupéfiante honnêteté, comme on disait dans le film des geôliers allemands, ou alors avec une neutralité tétanisante.
C'est plutôt une neutralité, même si les...
Tétanisante.
Tétanisante, je sais pas, mais en tout cas une neutralité, même si les belligérants les accusent de partialité, notamment lors des visites en France et en Allemagne. En Allemagne, on a envoyé un Suisse-Allemand visiter des Français, et Paris se plaint, estimant qu'il sera plus enclin à soutenir les Allemands. De même, en France, on envoie un francophone et Berlin se plaint qu'il aura peut-être des attitudes trop françaises.
Ce sont les Allemands qui détiennent le plus de prisonniers pendant la Première Guerre mondiale.
Pendant un moment, oui, ce sont les Allemands. Mais à partir de 1917, la situation change et les Alliés vont également détenir beaucoup de prisonniers de guerre. Mais les Allemands sont les majeurs détenteurs pendant les trois années de guerre.
Et les procédures de libération des prisonniers de guerre?
Alors, dès 1917, le CICR a demandé la libération non seulement des grands blessés, mais également des prisonniers valides, ce qui est une nouveauté absolue dans le droit, puisque le droit ne prévoit que la libération à la fin des hostilités. Les rapatriements vont avoir lieu véritablement dès l'armistice, même si les initiatives du CICR sont antérieures, mais aucun État ne va les soutenir.
Mais il y a des échanges. Annette Becker, que nous recevrons pour un autre sujet demain, cite ce débat à la Chambre en avril 1917, où Léon Pascal, député du Nord, récemment échangé, c'était un officier, explique, ça fait quand même du schtroumpf au Palais Bourbon, que la voix du CICR, puissante, solennelle, domine la voix du canon, car elle est elle-même la voix de l'humanité.
Tout à fait, il y a eu des échanges à partir de 1915. C'est d'abord des échanges de grands blessés ou de grands malades, des gens qui sont complètement invalides pour continuer l'effort de guerre. C'est des échanges qui se déroulent plus ou moins bien avec des haltes et des reprises. Et puis effectivement, on va également échanger à un moment certaines personnalités. Ça fait partie de la propagande également de guerre, de montrer qu'on est beaucoup plus humain que l'ennemi le dit.
Trois mots, si vous le voulez bien, sur les questions nouvelles qui naissent du chaos des forces, les civils internés et occupés. Nouveau sujet.
Ah, pour le CICR, c'est une nouveauté, effectivement. Pour la première fois, le CICR va s'occuper également des victimes civiles dans un conflit. D'ailleurs, une des sections de l'agence est consacrée aux civils, sous l'instigation du docteur Ferrière. Et c'est une nouveauté, tout simplement parce que le CICR, notamment les personnes des pays et des territoires occupés, va les considérer véritablement comme des victimes de guerre, ne pouvant pas correspondre, et quelquefois étant affamés à cause du blocus.
Par exemple, les gens du Nord, du Luxembourg, de Belgique. Question nouvelle, les gaz. Ici, c'est un extrait des Thibauts de Roger Martin Dugard, adapté pour la télévision par Louis Guillou. Le frère Thibault se penche, il est major, médecin, sur le sort de son cadet hyperité.
Comment allez-vous ?
Ni mieux ni pire, comme beaucoup de gazés.
J'ai le résultat de l'examen. Albumino-réaction négative. Bon signe ? Tu restes bien longtemps l'inhalation, ça ne te fatigue pas ?
Non. J'y tiens beaucoup. Le matin, les sécrétions qui couvrent la glotte sont si épaisses que la phonie est complète. Mais tu vois, elles s'atténuent notablement dès que le larynx est bien récuré par la vapeur.
Crois-moi, n'en abuse pas. Si agaçante qu'elle soit, la phonie est un moindre mal. Je te conseille de reprendre pendant quelque temps une de tes potions expectorantes. Terpine ou Drosera, comme tu voudras. Et dans une infusion de bourrache.
Oh.
Oui, oui. Remède de bonne femme. Une sueur abondante avant de s'endormir, à condition de ne pas prendre froid, rien de meilleur. Et si tu veux modérer les sécrétions nocturnes, pourquoi pas ces jours-ci une cure sulfo-arsenicale ? Et si la phonie augmentait, on pourrait toujours avoir recours à la strychnine. Les troubles cardiovasculaires des hypérités sont si différents selon l'âge du malade.
Vous évoquez à l'exposition du mémorial de Caen, Humaniser la guerre, l'appel aux belligérants en février 1918 contre l'emploi de gaz vénéneux.
Tout à fait, c'est notamment le gaz moutarde, la fameuse hyperite. Le CICR est informé dès 1915 de l'emploi des gaz, mais pour l'instant il n'y tient pas vraiment compte. C'est uniquement à partir de 1918, au moment où on sait que la guerre va arriver à un tournant, que le CICR a des informations sur le fait que les belligérants sont prêts à produire en grande quantité et de façon très facile des gaz de combat. Donc il va lancer en février 1918 un appel qui n'aura pas de suite, tout simplement parce que les belligérants diront: nous sommes prêts à refuser ou à ne pas employer les gaz pour autant que l'ennemi le fasse aussi. Nous attendons que l'ennemi dise oui avant que nous disions oui également.
Mais le temps de réaction, pour prendre la dernière question, celle sur laquelle nous reviendrons longuement jeudi et vendredi, du génocide des Arméniens en 1915 a été de combien de semaines ou de combien de mois de la part du CICR?
Il a été quasiment immédiat, puisque le CICR a reçu des informations à partir de l'été 1915 sur ce qu'il appelle l'extermination systématique des Arméniens. Donc, à défaut d'utiliser le mot génocide qui n'existe pas, il en a créé un. Et c'est à partir du mois de septembre qu'il va s'adresser au Croissant Rouge Ottoman, lui demandant de faire des enquêtes, comme le Croissant Rouge Ottoman est son intermédiaire auprès du gouvernement turc, lui demandant de faire des enquêtes. Le Croissant Rouge Ottoman, un peu pris aux encornures, va dire que ce n'est pas possible, que le gouvernement refuse. Le CICR demandera à envoyer des délégués sur place, mais bien évidemment, ce sera refusé par la sublime porte.
Et le CICR continuera de croire, une fois la guerre achevée, que celle-ci peut être fondatrice d'un droit nouveau, puisque Gustave Adorf, votre président de l'époque, devenu président de la Confédération helvétique, soutiendra le projet de société des nations qui s'installera à Genève. C'est à Caen qu'a lieu cette exposition qui s'intitule « Humaniser la guerre » et vous irez après ? Vous êtes déjà allé à Genève avec cette exposition.
Nous avons commencé par Genève au Muséerat et ensuite nous irons, j'espère, en Chine et en Russie.
Ah bah, de l'extension d'une tradition philosophique occidentale à de nouveaux domaines. Merci à vous, Daniel Palmieri.
Merci, Jean Lebrun.
Mathieu Vidard, vous parlez de la grotte Chauvet. Je vous félicite parce que vous dites la grotte Chauvet, vous encore.
Oui, Pont d'Arc, voilà, avec sa réplique qui va ouvrir samedi au public. On fera un peu d'histoire, nous aussi, du coup, 36 000 ans en arrière, Jean.
Merci.